Bonjour à tous, c'est Jérémy. Petit message avant de commencer cet épisode pour vous dire simplement que vous pouvez accéder dès à présent et de façon exceptionnelle au replay de l'événement que j'ai lancé récemment, à savoir le sommet de la productivité. Un événement dans lequel j'ai réuni 7 experts de mon réseau pour vous animer gratuitement un total de 8 conférences sur la productivité. Des conférences sur l'énergie, sur la procrastination, sur également tout ce qui est charge mentale et j'en passe. Donc si jamais vous souhaitez accéder à 8 heures de contenu 100% gratuit sur la productivité, c'est maintenant ou jamais. Car je couperai les accès à ces replays-là, à ces rediffusions-là, le dimanche 28 avril à minuit. Si jamais ça vous intéresse, cliquez simplement sur le tout dernier lien présent en description de chacun de mes épisodes de podcast. Maintenant, je vous laisse avec l'épisode que vous souhaitez écouter. À très vite. Allez, c'est parti pour un nouvel interview de cette série de 3 épisodes sur l'optimisation de la mémoire et de l'apprentissage. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur mon podcast Elliot Meunier, qui est le plus jeune de mes invités parce qu'il a uniquement 16 ans aujourd'hui. Elliot, c'est qui ? C'est un entrepreneur. Et oui, il a 16 ans, il est entrepreneur. Et il a notamment sorti une formation qui s'appelle Atomic Thinking, dans laquelle il apprend aux personnes qui l'ont suivi, dont moi typiquement, à décomposer son apprentissage pour apprendre plus efficacement et pour apprendre plus intelligemment, et ce notamment au travers de la méthode Zettelkasten. Alors je ne sais pas si vous connaissez vous cette méthode Zettelkasten, mais croyez-moi, si vous ne la connaissez pas, elle va changer votre façon de lire des livres, de suivre des formations et donc d'apprendre de nouvelles connaissances. Allez, je vous laisse directement avec Elliot pour entendre ce qu'est cette méthode et pour apprendre également à décomposer vos apprentissages. Eh ben, bonjour Elliot.
Bonjour Jérémy.
Déjà, merci d'avoir accepté l'invitation, comme j'ai pu te le dire juste avant.
Bah, avec plaisir, c'est vraiment avec plaisir que je viens sur le podcast.
Ah, c'est cool de se retrouver, on avait échangé un peu ensemble il y a quelques semaines, mois en arrière déjà, rapidement.
Ouais.
Et là, c'est cool d'échanger plus en longueur sur un sujet qui sera plus précis, parce qu'on a peu parlé de tout et rien quand c'est eu par Zoom la dernière fois. Et ce sujet, du coup, est notamment l'apprentissage. En fait, je me suis formé chez toi via une formation qui s'appelle Atomic Thinking, sauf erreur de ma part.
C'est ça.
Qui parlait notamment de tout ce qui était prise de notes, déconstruction des notes et tout ce qui était également en lien avec la méthode Zettelkasten. Et tout ça serait des sujets que j'aimerais aborder avec toi dans ce podcast pour aider un peu les gens qui me suivent justement à comprendre comment fonctionne cette méthode Zettelkasten et en quoi décomposer une note en briques élémentaires est très intéressant pour accélérer son apprentissage.
Avec plaisir.
Et pour commencer, j'aimerais te lancer sur un sujet déjà. Déjà, commence par te présenter, tout simplement, pour les gens qui ne connaissent pas.
Ça marche. Alors, je m'appelle Elias Meunier, j'ai actuellement bientôt 17 ans. Et du coup, je suis encore en classe de terminale actuellement. Et je suis donc créateur de contenu sur YouTube et j'ai un blog aussi. À côté, du coup, je suis formateur. J'ai une formation qui s'appelle du coup la méthode Atomic Thinking. Et pour dire plus globalement, c'est sur la gestion des connaissances personnelles en général. C'est en fait tous les processus que vous allez pouvoir mettre en place dans votre vie au quotidien pour mieux sélectionner, capturer, organiser et mettre au parti en fait toute cette connaissance que vous rencontrez au quotidien dans votre travail, si vous êtes créateur de contenu, dans les contenus que vous créez, etc.
Super. Et du coup, maintenant, pourrais-tu dire le lien entre ta méthode et la danse ? Ça fait gros teasing comme ça, c'est des sujets qui n'ont rien à voir avec la danse, mais comment tu as pu lier les deux pour créer ta méthode ? Parce que les deux sont liés en fait, et ça c'est passionnant je trouve.
C'est vrai. Bah, du coup, effectivement, j'ai été longtemps dans le milieu de la danse à haut niveau. J'étais à l'école de danse de l'Opéra de Paris pendant quelques temps. Et donc, dans cette école, en fait, j'étais assez frustré parce que les professeurs, en fait, donnent des corrections sur, comme la plupart des sports et la plupart des professeurs, hein, c'est pas une critique, mais sur, en fait, la manière dont eux, ils voient le mouvement et la manière dont, par exemple, si j'ai une jambe qui n'est pas assez haute, ils vont me dire « lève ta jambe plus haut ». Ils vont donner une correction en fait sur l'esthétique et sur l'extérieur du mouvement. Et j'étais très frustré parce qu'en fait, on recevait tous les mêmes corrections. On savait tous à quoi l'image parfaite du mouvement devait ressembler, mais on n'avait pas le chemin pour y parvenir. On ne savait pas exactement comment lever la jambe bien. Du coup, on prenait tous en force, on compensait. Et c'était en fait le seul truc qui différenciait un élève d'un autre, c'est la manière dont le corps allait avoir de plus ou moins bien gérer la correction, quoi. Du coup, j'étais très frustré à ce moment-là. Et un jour, j'ai pris un cours en technique Alexander. C'est un truc assez nouveau qui vient des États-Unis. Et en fait, la première question que la prof me pose, c'est « Ok, selon toi, où se termine ta colonne vertébrale ?» Et là, je dis « Ouais, bah, je pense que c'est là, derrière ma nuque, quoi, à l'endroit où je chante plus les vertèbres. » Elle me dit « Ok, bah, maintenant, tu sais pourquoi tu n'arrives pas à faire tes pirouettes. C'est parce que tu ne sais pas où est ton axe. En réalité, ta colonne, elle se termine en gros entre tes deux oreilles, quoi, au milieu de ta tête. Du coup, ton axe, en fait, il n'est pas derrière toi, mais il est en ton centre. Et du coup, quand tu cherches à visualiser ton tour, une pirouette sur une pointe, bah tu dois forcément te voir axé par rapport à là. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'en fait, pour progresser rapidement, pour faire donc de la pratique délibérée et progresser plus rapidement dans le sport et dans la vie de tous les jours, on pouvait en fait déconstruire le mouvement, essayer de comprendre de plus en plus en profondeur tous les sujets qu'on rencontre. Par exemple, comprendre l'anatomie, l'analyse fonctionnelle du mouvement, comment va fonctionner ton corps, pour pouvoir, quand le professeur te dit « lève ta jambe », comprendre que, ok, il te dit « active ». Par exemple, ton psoas pour monter ta jambe devant et quelque chose comme ça, quoi. Du coup, c'est un truc qui a complètement changé ma manière de voir les choses. Et depuis, en fait, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que ma curiosité me pousse à découvrir un nouveau sujet, je vais toujours, comme ça, chercher dans une sorte de puits de connaissances, à comprendre toutes les connaissances sur un sujet, à les intégrer moi-même pour ensuite pouvoir, créer des choses à partir de ça et apprendre rapidement, quoi. C'est cette méthode de déconstruire pour, au final, mieux gérer ses connaissances.
Super, et du coup, tu as fait un lien du coup, de la gestion des connaissances. Et l'idée, c'est vraiment partir sur des briques de base, les connaissances, on va dire, élémentaires que tu cherches à maîtriser, pour après réellement maîtriser un domaine pas à pas, on va dire, c'est bien ça. Étape par étape, plutôt que voir une globalité d'un sujet, on y va étape par étape, on commence par la base, après on met des briques de plus en plus, tu as comprendre le sujet en entier.
Ouais,
c'est bien ça.
Exactement. En fait, okay. Il y a plusieurs étapes dans le processus que moi je propose, et chaque étape est importante pour maîtriser un sujet. Du coup, par exemple, si aujourd'hui je devais apprendre un sujet en entier, la première étape que je ferais, ce serait par exemple lister toutes les connaissances d'un sujet, toutes les branches qui peuvent exister sur un domaine, pour être sûr de ne pas souffrir d'une sorte d'arrogance du débutant, l'effet de Dunning-Kruger, qui fait qu'en fait on n'a pas connaissance de tout ce qu'on ne connaît pas encore, quoi. Du coup, je ferais ça pour voir en fait dans chaque connaissance que j'apprends, où est-ce qu'elle s'inscrit dans une logique plus globale. Ensuite, je vais venir sélectionner l'information mieux. Du coup, là, il va y avoir plusieurs choses que je vais pouvoir utiliser. Premièrement, il y a l'effet Lindy qui a été en tout cas mis au goût du jour par Nassim Taleb dans son livre Antifragile, qui dit qu'en fait, plus un livre est publié et imprimé depuis un grand nombre de temps, le plus il a de chances d'être là dans le futur, et du coup, le plus les informations qui sont à l'intérieur ont de chances d'exister. Il va aussi y avoir... Le principe des sources, ne pas chercher à lire 100 livres sur une thématique, mais toujours chercher à lire le livre le plus complet, puis aller voir sa bibliographie pour ensuite revenir aux études scientifiques que tout le monde cite, ainsi que les exemples. En fait, la plupart des gens dans une thématique vont citer les mêmes sources, les mêmes exemples. Et nous, en fait, on va vouloir lire les 100 livres qui existent, alors qu'on pourrait juste lire les 100 sources que tout le monde cite, et ça irait 3 fois plus vite. Du coup, voilà toutes ces techniques-là que je vais mettre en place pour ensuite monter rapidement en compétence sur un sujet, en effet.
Il y a un truc super important que tu as évoqué, super intéressant, je trouve. Tu dis que tu commences par faire un genre de map mind, si je comprends ouais. bien, du sujet que tu veux creuser. Donc en fait, tu commences par savoir ce que tu veux tirer d'un sujet avant de commencer à creuser le sujet, c'est bien ça?
Exactement.
Donc typiquement, une personne qui veut se former à la communication devrait commencer par dire « Ok, la communication, ça se décompose en quoi ?» Plutôt prise de parole en public, ça sera plus simple. En silence à gérer, en intonation, en variation de voix, en posture, etc. Plutôt que commencer par acheter un livre, par exemple de TEDx, pour apprendre à parler.
Oui, complètement.
En fait, on décompose en briques élémentaires ce qu'est la prise de parole en public, en X briques élémentaires, en X étapes à valider, on va dire. Et après, on cherche les meilleurs livres dans chacune des étapes, puis les sources. Et comme ça, on maîtrise réellement le process de A à Z.
Exactement. Et même plus sur la parole en public, il pourrait y avoir en fait 2 sous-domaines, voire 3 sous-domaines. Rhétorique, comment est-ce qu'on structure le discours, comment est-ce qu'en tant qu'orateur, etc. etc. Et effectivement, en fait, c'est pour que chaque connaissances qu'on apprenne, ce soit pas simplement, c'est comme en cours en fait, les professeurs vont nous dire retiens que tel événement a eu lieu à telle date, mais en fait ce qu'il faudrait retenir c'est tel événement a eu lieu à telle période, ce qui a causé telle chose. En fait, ça permet d'avoir une vue systémique de ces connaissances, quoi, et globale.
Oui, t'es pas sur un fait qui est isolé, mais sur un fait qui a des répercussions.
Complètement. Et c'est plus facile à mémoriser.
C'est beaucoup mieux au niveau du cerveau, c'est ce que j'allais dire, parce que c'est beaucoup plus marquant pour le cerveau. Un fait isolé ne sert à rien. Mais un fait duquel découlent des émotions, des événements, des choses un peu assez puissantes, en fait, le cerveau l'ancre beaucoup plus facilement. Et plus tu as une logique qui est derrière, plus le cerveau va comprendre aussi. Le cerveau ouais. a besoin de comprendre les choses. Et si tu n'apportes pas toutes les briques qui vont avec ta brique élémentaire, du coup, forcément, tu ne comprends pas un problème en entier. Et forcément, tu l'oublies plus facilement.
Ouais, complètement.
Super intéressant. En parlant justement d'apprentissage et de professeur, peux-tu présenter ta façon, toi, d'apprendre tes cours à l'école? Tu as fait une vidéo sur ça
ouais.
qui m'a beaucoup plu.
Absolument.
Et je me suis dit, en fait, toi, on a 13 ans d'écart, toi et moi, quasiment. Je me suis dit, c'est à l'époque, j'avais accès à Internet, comme toi aujourd'hui, les flashcards et tout, les MapMind. Franchement, ça aurait été génial, quoi.
Ouais.
C'est simplement génial, parce que tu as un accélérateur de connaissances par rapport à l'école qui est assez phénoménal et que beaucoup de personnes devraient comprendre et connaître, même au niveau de l'entreprise, je pense. Peux-tu en parler?
Ouais, bien sûr. Alors, déjà, il y a un truc que, que je tiens à préciser dès le début. Je suis assez critique envers le système éducatif, mais je n'accuse personne. Je pose simplement un constat. Il y a beaucoup de personnes qui ont... Enfin, j'ai jamais croisé une personne en fait, qui a rien à redire sur le système éducatif, mais personne n'arrive à formaliser vraiment un truc construit. Donc, c'est un peu ce que j'essaye de faire et je trouve que c'est important de dire ce qui ne va pas. Voilà. Donc, je tiens juste à dire ça d'abord. Et du coup, disant ça, je tiens à préciser que en fait, je ne fais pas confiance dans le système éducatif français pour mon apprentissage. Je le fais moi-même. Parce que, en fait, le système éducatif français, on pourrait le comparer un peu à la médecine du XVIIe siècle, ce que décrit Molière dans Le Malade imaginaire ou des choses comme ça. En fait, où en fait, le traitement à l'époque, c'était au bon vouloir du médecin. C'était, OK, lui, il a la fièvre, je pense que le mieux, c'est de lui faire un lavement et de le mettre au lit pendant 7 jours. Mais ça reposait sur aucune base scientifique. Il y avait des gens qui pensaient que le sang circulait et d'autres pas. C'était la croyance personnelle, quoi. Et les gens qui allaient pouvoir gagner le débat, c'est les gens qui allaient être le plus virulent, quoi. Et ben en fait, c'est un peu pareil aujourd'hui. À l'école, les professeurs, ils savent pas comment fonctionne le cerveau de leurs élèves. Ils savent pas comment on apprend les meilleures techniques. Donc, ça va être, OK, le bon sens me dirait, moi, en tant que professeur, que pour faire apprendre à mes élèves, il faut que je leur fasse apprendre par cœur le cours pour le réciter dans des contrôles toutes les 2 semaines, quoi, par exemple. Et personne va dire au professeur que non, c'est pas comme ça qu'on apprend. Et donc, en fait, on va avoir des supports de cours qui vont être mal construits. On va avoir des cours qui vont être mal donnés parce qu'en plus, ils connaissent pas la rhétorique, ils sont pas formés à l'art oratoire et tous ces trucs-là. Donc, on se retrouve avec des gens qui sont pas des professeurs qui font de leur mieux, évidemment, mais qui ont pas les outils et la connaissance pour avoir, enfin, l'enseignement le plus efficace qui pourrait être. Du coup, ce que je fais, moi, c'est que je base, du coup, mes méthodes d'apprentissage sur des faits, comment le cerveau fonctionne. On connaît depuis quelques temps la consolidation mnésique, les théories cognitives de comment est-ce qu'on va apprendre, etc. Donc, comment je fais pour apprendre mes cours? Je ne me fie pas du coup au support de cours du professeur. La plupart du temps, c'est un programme national, donc il y a plein de ressources sur Internet aujourd'hui. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais effectivement faire la carte globale du sujet. Je vais faire une carte mentale sur si c'est par exemple la déviance en SES. Je vais dire, OK, la déviance, d'où ça vient, pourquoi c'est là, quelles sont les causes et les solutions quoi, à la déviance. Du coup, ça va être ma carte mentale. Quoi. Je vais mettre toutes les informations. Ça va me prendre peut-être 30 minutes à faire un week-end. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement la relire en me posant des questions. C'est-à-dire que on sait qu'aujourd'hui on mémorise pas en lisant plusieurs fois la même chose. Ça fait comme si on se souvenait parce que ça nous procure le même sentiment, mais c'est pas le cas. Du coup, je vais en fait voir en fait ce qui est marqué sur la branche de la carte mentale, par exemple l'origine de la déviance. Je vais essayer de me questionner. Ok, qu'est-ce que c'est que l'origine de la déviance? Ok, il me semble que il y a plusieurs personnes qui l'ont expliqué sous différentes manières. Il y a par exemple la manière de telle personne et ainsi de suite, ainsi de suite. Et du coup, voilà, c'est comme ça que j'apprends mon cours. Et donc en fait, ça me prend 2 semaines avant le contrôle, quand on l'annonce, je vais dire, OK, faut que je comprenne, que je découvre et que j'apprenne le cours, quoi. Du coup, je vais faire ce truc-là de faire ma carte mentale et je vais la relire à peu près tous les soirs jusqu'au contrôle pour pouvoir apprendre le sujet.
Et en te posant des questions à chaque fois. Et ça, on en a beaucoup parlé avec Jean-Yves Ponce, que j'ai reçu sur le podcast, comme quoi, effectivement, ça s'appelle l'illusion du savoir, en fait.
Ouais.
Quand tu lis quelque chose, en fait, tu crois le savoir. Typiquement, on te dit, est-ce que tu savais que les trois ramages étaient Melchior, Balthazar et Gaspard? Tu vas dire, oui, je le savais. Par contre, si on te dit quels sont les trois ramages, c'est pas pareil.
Ouais.
Si tu n'as pas la réponse, elle ne va pas venir. Mais pourtant, en fait, tu dis, je crois le savoir qu'on te donne la réponse. Non, tu ne le savais pas, c'est faux. C'était ancré dans ta tête, effectivement, tu n'as pas réussi à rechoper l'information, tu ne le savais pas réellement. Tu ne peux pas mobiliser l'information comme tu veux. Donc, c'est ça qu'il est important pour les gens d'arrêter de lire des choses, mais plutôt se poser des questions. Et c'est là qu'une application comme Anki et les flashcards est super intéressante et super pertinente. Est-ce que tu peux en parler un peu parce que tu t'en sers toi au quotidien, je sais.
Ouais.
Et comment tu t'en sers toi au quotidien justement?
Absolument. Alors Anki, donc c'est une application qui est c'est une application de répétition espacée et de flashcards. Donc c'est quoi la répétition espacée? C'est basé sur des bases scientifiques en fait. Ça te repropose l'information autant idéaux calculés par la science pour que tu te souviennes d'une information sans avoir l'impression de t'en souvenir en fait. Et ensuite une flashcard, du coup c'est une question avec une réponse concrètement. Donc ça se présente comment l'application? C'est t'as la question. Tu te poses du coup la question, si la question c'est quels sont les trois ramages, tu vas essayer de te souvenir dans ta tête de la réponse, t'affiches la réponse et tu te dis ensuite si t'as eu correct ou incorrect ou si c'était trop facile. Et en fonction de ta réponse, bah, Anki va te reproposer la flashcard dans 2 jours, moins d'une minute, une semaine ou autre.
Et pour les gens qui sont pas à l'aise avec l'informatique, parce que tout ça se passe sur téléphone, principalement ouais. Sur ordinateur. Des simples cartes papier au format Bristol fonctionnent très bien en fait.
Ouais.
On écrit la question d'un côté et la réponse de l'autre, on prend 3 petits bacs, révision en 1 semaine, révision en 1 mois, révision en 3 mois par exemple. En fonction de la facilité de réponse qu'on a, on met la carte soit dans la catégorie facile, donc réviser que dans 6 mois, soit 3 mois, soit 1 mois.
Ouais,
Sur
et
une
du coup.
semaine, je sais plus ce que j'ai dit, mais peu importe.
Ouais, et par rapport du coup à comment je l'utilise, parce que je n'avais pas répondu à ta question entière,
Yes.
par exemple, j'apprends les neurosciences de mon côté, et du coup, pour être. Enfin, en fait, mon but, c'est de mémoriser tout le livre. J'ai acheté un gros livre de 1000 pages sur les neurosciences. Mon but, c'est de le
C'est quel
mémoriser.
livre?
C'est le livre, je le vois d'ici, mais je pourrais pas te dire. C'est la quatrième édition d'une édition.
Tu me le diras après.
Ouais, je dirais. Et voilà, du coup, mon but, c'est vraiment de le mémoriser intégralement parce que ça sert à rien de lire enfin, il y a un potentiel d'action, etc. Si je m'en souviens pas par cœur et que je peux pas remobiliser ces informations, je perds mon temps, quoi. Du coup, je vais effectivement passer peut-être 3 fois plus de temps que si je lisais simplement le livre parce que je prends des notes dessus. Mais en fait, du coup, je prends du temps pour prendre des notes dessus et je note ces questions, comme je sais que c'est pour les mémoriser, en mode je mets une question. Et ensuite, en dessous, je mets la réponse. Je pourrais aussi noter de manière tout linéaire en retranscrivant ce que je comprends, mais je choisis de le formuler directement en mode question-réponse. Et ensuite, ça, je le transfère dans Anki. Donc, tous les matins dans le bus, quand je vais au lycée ou quand j'attends chez un médecin, quoi, je vais passer ces flashcards et je vais en fait mémoriser les connaissances sans avoir l'impression de travailler au final, parce que ça se fait au quotidien dès que j'ai un moment de vide.
Complètement sur un temps mort, sur un transport,
Complètement,
dans de
ouais.
l'attente, etc. Comme tu le dis, plutôt que regarder des vidéos YouTube un peu bêtes, façon de parler, ou suivre les informations, ce qui n'est pas toujours pertinent, on va dire, autant faire ça.
Ouais, exactement.
En plus, on progresse réellement, c'est zéro temps. Effectivement, la prise de notes est un peu longue, ça c'est clair et net. Mais la chose qui est intéressante par rapport à la prise de notes, on va rebondir là-dessus, toi et moi, beaucoup de gens en fait prennent des notes, on va dire, mot à mot. En fait, ils lisent un livre, voient une phrase qui est intéressante, ils les recopient telle quelle. Et ça ne marche pas spécialement pour le cerveau. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de lien avec cette note-là. Par contre, quand on prend une note, on va la déconstruire, comme tu l'as dit, on va la réécrire selon nos termes à nous. Idéalement, on va ajouter un exemple vécu personnellement par rapport à cette note, quand c'est possible, bien évidemment, en neurosciences, c'est pas évidemment facile, on parle de synapses,
C'est vrai.
on peut toujours faire des liens, on peut toujours. On tire pas la dimension émotionnelle. Mais plus on va reformuler une note de façon vraiment intelligible pour nous, avec nos mots à nous, avec notre compréhension à nous, plus on va la retenir aussi facilement. Et ça, effectivement, c'est une méthode que tu partages toi aussi dans ta formation, et c'est super intéressant et super important. Parce que les gens qui reprennent des notes stricto sensu, autant lire le livre en fait. Ça ne sert à rien.
Ouais,
Il n'y a
absolument.
pas de bénéfice, il n'y a pas de bénéfice derrière.
Ouais, absolument. Et du coup, vas-y, je te laisse.
Non, vas-y, vas-y, non,
Okay.
vas-y.
C'est du coup ça, c'est effectivement le fait de déconstruire cette note-là. C'est du coup le principe de la méthode Zettelkasten. C'est un peu le truc sur lequel la méthode Atomic Thinking est basée. C'est effectivement partir du principe que tout ce qu'on consomme, tous les contenus qu'on consomme au quotidien, ce sont des empilements de concepts. C'est des concepts que l'auteur a intégrés d'autres sources au cours de sa vie et qu'il a choisi de réexpliquer sous une forme qui lui est propre dans un livre. Du coup, nous, notre travail, ça va être en fait, pour comprendre un contenu, ça va être d'identifier tous les concepts qui sont dans ce livre-là et les réexpliquer en nos propres mots et surtout les isoler dans leurs propres notes. De cette manière, on va plus avoir une note de manière, enfin, complètement linéaire et littéraire sur le livre parce qu'on aura pris des notes pendant qu'on lisait, mais on va avoir un ensemble de concepts qui proviennent de ce livre-là qu'on va pouvoir nous-mêmes choisir, enfin, du coup, on va les avoir intégrés puisqu'on va les avoir réexpliqués en nos propres mots, et ensuite on va pouvoir du coup choisir de les enfin, réexpliquer, remanier sous notre propre forme, avec notre propre angle, et c'est comme ça qu'on crée un contenu en fait. Et même si on n'est pas créateur de contenu, le fait de déconstruire ces concepts-là, ça va nous permettre de les intégrer. C'est le principe de la méthode Feynman. Feynman, qui est donc un physicien, qui disait qu'on peut pas. Enfin, on comprend quelque chose quand on peut l'expliquer à un enfant de 12 ans. Ben, c'est exactement ça. Enfin, c'est comme si on donnait un cours à notre second cerveau quand on prend des notes finalement. Parce que en plus à l'écrit, on peut pas avoir de trou logique, on peut pas dire comme à l'oral, ouais, mais c'est ce que je t'avais dit, c'est je l'ai mal expliqué. Non, à l'écrit, c'est on est confronté à la logique du papier, donc forcément, bah, on est obligé d'avoir le bon truc écrit. Du coup, effectivement, on apprend en reformulant nos propres mots grâce à cette méthode. On intègre les concepts et on peut les réutiliser quand on veut, quoi.
Et je vais en parler avec Jean-Yves Ponce également, c'est fou à quel point réécrire en ses propres mots fait que tu mémorises beaucoup plus rapidement aussi de ton côté. Typiquement, tu vois, j'ai pris l'exemple des feuilles de pompe quand tu es à l'école. Quand tu fais une feuille de pompe, en général, la personne qui l'a fait va se souvenir du cours en écrivant sur la feuille de pompe.
Ouais.
Elle ne va pas utiliser la feuille de pompe au final. Contrairement à une personne qui va faire que relire le cours et qui ne va pas la mémoriser plus facilement. Donc, effectivement, relire un livre, prendre des notes dessus, réécrire ses notes, c'est très puissant. Et plus d'une fois, je me suis dit en lisant un livre, ça, il est cool ce bouquin. Mais quand j'ai repris les notes et j'ai vu tout le potentiel qu'il y avait derrière, et là, ça change la vie. Et je me dis, en fait, plus tôt on commence, mieux c'est. Parce que souvent, on a tendance à procrastiner par rapport à ça parce que c'est long. Ça demande du travail, très clairement. On ne va pas se le cacher, toi et moi, tu le sais très bien. Et je le sais également. Mais plus on va le faire depuis longtemps, plus on va commencer tôt, plus on va emmagasiner une grosse source de notes qu'on pourra par la suite interconnecter les unes aux autres. Et ça, j'aimerais que tu en parles aussi un peu de la notion d'interconnexion qui est très puissante et très pertinente et qui réellement fonctionne comme fonctionne le cerveau avec cette notion de causalité, cette notion de lien ouais. entre les pensées et les connaissances qu'on a. Et ça, on ne peut pas l'avoir grâce à l'ordinateur.
Ouais, absolument.
On va sur Google pour trouver une information, on a l'information qui est brute. On n'a pas tous les liens avec l'information qu'un cerveau, lui, peut faire directement. Et pour moi, cette compétence-là du cerveau est trop sous-estimée aujourd'hui et a tendance à se perdre à cause de Google, des moteurs de recherche et j'en passe. Peux-tu en parler de cette notion de lien entre les notes,
ouais, s'il te plaît ? Absolument. Alors, en fait, dans l'organisation que moi, je propose dans la méthode de Atomic Thinking, on va avoir une organisation qui est dite bottom-up. C'est-à-dire que les organisations classiques, c'est quelque chose qui va être, en fait, on va avoir une organisation qu'on va créer et ensuite qu'on va imposer sur le contenu. Ça va être quelque chose, du coup, top-bottom, ça va être quelque chose qui va être rigide sur le contenu. Par exemple, on va dire, ok, je vais mettre ce dossier-là, à l'intérieur, je vais mettre dans le dossier danse, je vais mettre le dossier capoeira, danse classique, etc. Et je vais organiser mes notes de cette manière-là en les cloisonnant dans des silos. À côté de ça, on peut avoir l'organisation qui émerge du bas. C'est-à-dire que moi, toutes mes notes, elles sont dans le même dossier. J'ai plus de 1000 notes dans mon système et j'ai un seul dossier. Toutes les notes sont au même niveau. Il n'y a aucune cloison entre ces dernières. Et les seuls liens qui existent, qui sont structurantes dans ma base de données, c'est des liens logiques. Donc, en fait, si je ne fais pas de lien logique, si je ne réfléchis pas, ok, quelle note contredit cette note? Quelle note pourrait aller dans le même sens? Est-ce qu'il n'y aurait pas un concept qui serait lié? Est-ce que je ne pourrais pas trouver une nouvelle idée grâce aux notes qui sont déjà dans mon système? Ben, j'ai aucune structure, les notes sont isolées et mon système ne me sert à rien. Du coup, à chaque fois que je crée une note, je me force à créer un lien logique entre différentes notes. Et également, ensuite, on peut visualiser ça sous forme un peu de réseau de neurones quand on est dans le logiciel qui s'appelle Obsidian. On peut visualiser en fait les interconnexions qui existent entre les différentes notes qu'on a déjà faites par le passé dans notre second cerveau. Et du coup, ça peut nous aider également à générer de nouvelles idées ou même à retrouver une note. Des fois, je retrouve plus une note. Je sais que c'est connecté à un tel concept. Je vais aller sur ce concept pour retrouver la note. Parce que c'est comme ça que marche notre cerveau dans tous les cas. On sait que, par exemple, on a mémorisé une telle information dans telle circonstance. On va essayer de se replonger dans la circonstance pour retrouver la note ou des choses comme ça. Donc c'est exactement pareil dans le second cerveau. Ça reproduit en fait exactement le fonctionnement du premier cerveau.
Et la chose qui est intéressante, c'est que cette méthode-là force à passer à l'action aussi. Parce que beaucoup de personnes consomment beaucoup de contenu en prenant des notes un peu à la volée, mais ne reviennent jamais sur leurs notes.
Ouais.
Et quand on se force à les réécrire, à les connecter et à trouver des liens, des vieilles notes parfois, on va réactiver la note précédente. Et là, c'est intéressant. Et si en plus on contextualise, là je vais m'adresser précisément au cadre, aux dirigeants qui m'écoutent, parce que c'est mon public cible par rapport à ce podcast. Beaucoup de personnes ont lu typiquement le livre « Influence et manipulation ». Super, il y a 6 principes de Cialdini, etc. Sauf que personne ne les applique. Par contre, si on reprend le livre, si on dit « Ok, typiquement, je ne sais pas, la réciprocité. Ok, c'est cool, machin, machin, ça devient l'influence. Mais typiquement, comment moi je peux l'intégrer ? » Et ça, quand on va reprendre son livre en note, on va le reformuler, on va chercher précisément comment moi, dans mon job du quotidien, par rapport à mes équipes, par rapport à mes collaborateurs, par rapport à mon directeur, par rapport à mes clients, peu importe, comment je peux l'intégrer réellement. Et ça, on va l'écrire sur la note également. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne moi, toi.
Absolument, oui.
Une notion de mise en application sur comment, en fait, ce concept-là, qui de base est cool, en plus, c'est un livre qui répond à l'effet Lindy, typiquement parce qu'il est assez ancien. Donc, c'est un livre qui a fait ses preuves au travers le temps. Donc, ça fonctionne factuellement. Donc, comment moi, je peux réellement tirer bénéfice et m'en servir dans mon quotidien. Ça, je vais l'écrire noir sur blanc dans ma note. Et ça, je trouve, c'est très puissant, encore une fois.
Oui, absolument.
Et toi, justement, il y a aussi grâce à ça, pardon, il y a des choses super intéressantes qu'on peut mettre en place. Ce sont des parallèles et des métaphores pour expliquer des choses. Toi, tu parles souvent comme métaphore qui est assez simple à trouver, c'est le parallèle entre un réseau de neurones et un arbre. Et en fait, beaucoup de gens ne se demandent pas à quoi ressemble un neurone. Un réseau de neurones, c'est beaucoup de ramifications, mais c'est assez obscur pour les gens. Par contre, tu dis c'est comme un arbre, là ça match, là ça percute. Et grâce à ça, grâce à ces parallèles-là qu'on peut faire au travers des différents domaines qu'on peut apprécier, et ça, on en parlera juste après ensemble, on peut réellement donner des métaphores super intéressantes aux gens pour qu'ils comprennent notre message et que notre prise de parole soit réellement impactante par rapport aux personnes, qui a un effet un peu waouh et que ça marque les gens. Et je trouve que prendre des notes de cette façon-là permet de construire un discours plus efficacement et de façon plus impactante. Qu'en penses-tu ?
Je suis complètement d'accord. Et si tu veux, je peux donner un exemple qui illustre parfaitement ce que tu venais de dire. Je prenais une note du coup sur la génétique. Et du coup, je commence à faire des liens un peu dans mon second cerveau sur cette note-là. C'était la manière dont un virus va venir se reproduire dans une cellule, un petit morceau d'ARN, etc. Et du coup, En regardant un peu les liens qui pouvaient exister dans mon second cerveau, je suis tombé du coup sur le concept d'atomicité des pensées. C'est le fait de dire en fait que quand une idée vient, une autre apparaît, etc. Mais elle a besoin de connaissances pour se développer, cette idée. Du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est parfait, c'est l'image parfaite. En fait, une idée, c'est comme un virus. Un virus qui va venir du coup, une idée, ça va venir s'incruster dans votre cerveau, comme un virus va venir s'incruster dans votre système. Et sauf que ce virus, si on ne lui donne pas un matériel génétique pour se reproduire, eh ben, il va mourir. C'est comme une idée, si on ne lui donne pas les connaissances qu'il lui faut pour se développer, elle va elle aussi mourir, elle va tomber dans le carnet des trucs qu'on n'a pas fait. Et du coup, bah, en fait, c'est l'image parfaite. Enfin, une idée, c'est un virus. Et les connaissances, c'est le matériel génétique de la cellule qui lui permet de se reproduire.
Et encore une fois, tu parles de mort des idées. J'irais même plus loin. Travailler de cette façon-là, faire bosser réellement son cerveau de façon efficace, non pas de façon passive, non pas uniquement en soulignant des choses sur Kindle ou sur livre, permet de repousser les risques d'apparition de maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson.
Aussi, ouais.
Parce qu'Alzheimer, c'est quoi, grosso modo? C'est une perte des connexions entre les neurones, de façon très simple. Et en fait, ce qui va se passer, c'est plus tu vas apprendre, plus tu vas solliciter ton cerveau de cette façon-là ou d'autres façons, comme on l'a vu avec Jean-Yves Ponce également, le fait de mémoriser un jeu de cartes typiquement, plus tu vas créer des connexions denses dans ton cerveau. Plus tu vas densifier tes connexions, tes ramifications, plus tu vas créer aussi de myéline et j'en passe. Et en fait, plus la maladie, notamment Alzheimer, aura de mal à, comment dire, à tout détruire. Tout simplement. Et on sait grâce aux neurosciences que la maladie d'Alzheimer apparaît au bout de 80% de destruction, je crois, de mémoire. Donc plus tu vas faire bosser ton cerveau tard, je veux dire pendant longtemps, 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 pendant des années, plus tu vas créer des connexions qu'Alzheimer aura du mal à défaire. Et donc plus la maladie va apparaître tardivement dans ta vie. Ça ne va pas l'annuler, ça ne va pas la supprimer, mais ça va retarder l'échéance. Et qu'on gagne rien que 2 ans, 3 ans, 5 ans, toujours ça de prix, j'ai envie de dire, par rapport à une maladie qui est aussi terrible que celle-ci.
Ouais, c'est sûr. Bah, si, tu viens de me faire un nouvel argument marketing pour ma formation.
Ah bah là, voilà. Sauvez votre vie, sauvez vos neurones, sauvez vos proches. Non, mais c'est très puissant, effectivement. On va réellement densifier le cerveau, on va créer un rempart face aux maladies, quoi. En fait, on aura plus de soldats en première ligne pour arrêter la maladie, pour la ralentir du moins. Une belle métaphore, je pense. Donc voilà. Et à ton avis, comment on pourrait, je pense, en tant que cadre et que manager, comment est-ce qu'on pourrait forcer nos collaborateurs, façon de parler, à adopter cette méthode-là au quotidien? Est-ce qu'il y a des méthodes, selon toi, pour essayer d'inciter les gens à raisonner de façon plus, justement, en créant des liens, de façon plus neuronale, en quelque sorte, on va dire?
Ouais, c'est vrai.
Qu'il y a des méthodes, des inputs à donner, quoi, aux personnes?
C'est vrai qu'il y a un énorme enjeu sur la gestion des connaissances, non pas personnelles du coup, mais plutôt de groupe, en équipe.
Collective, ouais.
Ouais, collective. Et surtout la manière dont les retours d'expérience, les choses comme ça peuvent être faites et mieux organisées. Honnêtement, je suis actuellement en train de concevoir ou de réfléchir à justement un système qui pourrait convenir au PME, par exemple. Donc j'ai pas réellement la solution au problème actuellement. En tout cas, Le type de système que moi je propose dans Atomic Thinking est possible c'est possible de le mettre en place à plusieurs. Après, l'enjeu vraiment là-dedans, c'est la différence entre information et connaissance. Si on va dans la théorie de l'information, t'as en fait, au début, c'est simplement une donnée qui décrit une réalité, qui devient en fait une information quand cette donnée est porteuse de sens, et ensuite qui devient une connaissance quand elle est intégrée par un humain et comprise. Sauf que du coup, ce qui est pour toi une connaissance et pour les autres une information. Donc en fait, créer ce système, ça fait reproduire un Google en fait. Donc c'est pas nécessairement, après c'est un Google plus, c'est une sorte de base de données exhaustive sur les clients ou les choses d'une entreprise. Donc c'est peut-être plus pertinent qu'un Google tout simplement. Mais ça n'empêche que ça demande beaucoup de temps pour au final du coup moins de bénéfices puisque ça reproduit pas le fonctionnement de ton cerveau, ça reproduit un fouillis global de toute l'entreprise quoi. Donc c'est complexe. Et en revanche, à l'échelle plutôt individuelle, je suis contre en fait les structures rigides qui s'imposent. Je suis plus pour un système qui est défini où il y a des limites qui sont définies par des principes dans lesquels on peut évoluer librement. Donc je dirais apprendre un certain nombre de principes qui pourraient être intéressants, comme comment marche le cerveau, comment est-ce qu'on peut apprendre plus facilement, toutes ces choses-là en fait, et je pense que c'est déjà suffisant. J'espère que j'ai répondu à ta question plus ou moins.
En fait, ce qui serait intéressant, je pense, parce que j'ai compris, c'est plus enseigner les briques élémentaires aux personnes, après elles se débrouillent avec, façon de parler.
Ouais.
Et après, elles font elles-mêmes les liens. Plutôt que d'une formation, on va dire clé en main, qui balaye un peu tous les sujets sans réellement les approfondir, se focaliser sur un seul sujet qui est plutôt pertinent, qui va à la source, comme tu as pu le dire à plusieurs reprises. La brique élémentaire, c'est ça. On va dire que le... Comment on dit Damon Pine, et j'ai oublié le nom,
le
modèle mental, pardon.
Okay, oui.
Modèle mental, on va dire, de tel élément, c'est ça. Par contre, maintenant, c'est à vous de le contextualiser par rapport à vos projets, par rapport à votre vie, par rapport à votre management, par rapport à vos équipes, et j'en passe. Là, ça pourrait être pertinent, je pense.
Ouais.
Et l'autre élément que je voulais mettre en place aussi de mon côté par rapport à mes formations, c'était un rappel espacé. par email.
C'est génial ça.
Directement à destination de mes clients. En fait, c'est bien, c'est pas bien dans le sens, c'est bien effectivement parce que du coup, tu permets aux gens d'intégrer la formation, il y a de la valeur ajoutée qui est apportée par rapport à ces personnes-là. Mais le seul problème, pour qu'un rappel espacé fonctionne bien, c'est que la personne elle-même formule ses propres questions. Alors que là, je vais imposer mes questions. Donc tu vois, c'est bien dans un sens, mais c'est moins bien de l'autre. En fait, c'est mieux que rien, je pense.
Oui, c'est vrai. Enfin, faut partir du principe que les personnes... En fait, moi, dans ma formation, comment je me suis débrouillé, c'est que du coup, je dis aux gens, bah, reformulez ce que vous avez compris dans les commentaires en dessous. Et du coup, maintenant, il y a une trentaine de commentaires de personnes qui reformulent à chaque fois. Du coup, déjà, ils ont compris. Et ensuite, effectivement, j'ai réfléchi moi aussi à mettre en place un système de répétition espacée avec des flashcards sur Anki, etc., sur tous les principes de la formation. Et je ne l'ai pas fait. Justement pour la raison que moi, les gens qui suivent la formation savent comment utiliser Anki, donc peuvent le faire de même si ça les intéresse, quoi. Et justement, c'est ce truc-là, c'est le truc exactement du fait qu'ils intègrent plus en le faisant que si moi je leur donnais.
Complètement. Mais je pense vraiment que les formateurs d'entreprise auraient à gagner à faire ça, en tout cas.
Oui, clairement. Et
à
même moi...
aider les gens à avoir un suivi, en fait, en quelque sorte.
C'est ça.
C'est automatique. Maintenant, on a tout ce qu'il faut en termes logiciel pour programmer à 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Ça ne demande aucun temps.
Non, c'est sûr.
Au début, forcément, mais je pense qu'il y a une vraie plus-value. Et c'est un bon argument de vente aussi par rapport à ces formateurs en ligne.
Et ouais.
En présentiel.
Et moi, hier, par exemple, j'ai sorti une vidéo sur l'écologie qui dure plus de 30 minutes. Le but, c'est que...
Qui est une très bonne vidéo, d'ailleurs, que je vous invite à écouter.
Ah, merci beaucoup. Et
je l'ai écouté hier en marchant.
Je propose du coup un paquet de flashcards que les gens peuvent télécharger gratuitement. Ce qui, moi, me permet de rentabiliser le temps quand même conséquent que j'ai passé à créer ces flashcards. Justement en captant les adresses mail des gens, puisque je prends leur adresse mail, du coup je peux les recontacter plus tard. Et du coup il y a une trentaine de flashcards que les gens peuvent juste passer au quotidien, quoi, dès qu'ils ont un temps de libre, pour essayer en tout cas au maximum de mémoriser les informations pour avoir des débats constructifs basés sur des faits, sur l'écologie.
Super intéressant. Aussi, une autre méthode dont j'ai parlé à nouveau avec Jean Dupont, ce que je cite pas mal, j'ai l'impression, dans ce podcast. Une méthode que j'ai découvert au niveau d'Oussama Amar, que tu dois connaître, qui est la méthode Twitter, on va l'appeler, on va dire. En fait, lui, il a une super méthode pour apprendre des choses, c'est qu'il va sur Twitter, il supprime toutes ses connexions Twitter, toutes les personnes qui suivent, et il va se focaliser sur un domaine en particulier. Typiquement sur les neurosciences, il va suivre que des neuroscientifiques. Il va baigner dans ce milieu-là durant des mois et des mois, juste à comprendre leur langage, comprendre un peu les connexions qu'ils ont avec les autres, comprendre les systèmes, les évolutions, les technologies, etc. Et j'en passe. Et je trouve effectivement que s'immerger à 100% dans un domaine durant des mois et des mois est très pertinent plutôt que le survoler durant plusieurs années. Autant, je pense, faire un rush sur un domaine, vraiment prendre des notes, aller à la source, bien le comprendre à fond, et après passer sur notre sujet, tout en révisant le premier, bien évidemment, mais éviter en fait de courir plusieurs lièvres à la fois.
Ouais.
Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Est-ce que tu es d'accord? Quitte à revenir encore une fois plus tard, hein.
Ah, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'il y a vraiment un 80-20 qui s'applique sur les informations. 80% des informations qu'on lit sont inutiles ou périmables ou vont périmer dans les années qui viennent. Donc, il faut clairement remonter aux 20% d'informations qui font toute la thématique dans laquelle qu'on veut apprendre, quoi. Et ensuite, par contre, il y a aussi des systèmes de, si on veut rester, enfin, une fois qu'on a, disons, eu le 80-20, et du coup, on est quand même plutôt calé sur la thématique, on peut mettre en place des systèmes de, effectivement, soit Twitter s'immerger dans le domaine pour voir les branches qu'on pourrait ensuite explorer, soit créer une sorte de veille de contenu en agrégeant, en fait, tous les blogs qui sont intéressants sur le sujet, en ayant une sorte de flux d'actualité qui nous dit toutes les découvertes qui existent, quoi.
Super intéressant. C'est vraiment s'immerger à 100%. Et encore une fois, s'immerger non pas auprès des personnes, on va dire lambda façon de parler, mais réellement auprès des experts du domaine. Et là, ça devient super intéressant. En plus, effectivement, au début, c'est assez compliqué parce qu'on ne comprend pas tout. Généralement, c'est en anglais. En plus, rares sont les Français qui sont experts, malheureusement, à l'heure actuelle, d'un domaine précis. Malheureusement, encore une fois, je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais en tout cas, c'est très peu présent. Mais plus on va avancer, plus on aura la satisfaction de comprendre les termes, de commencer à les maîtriser. En plus, du coup, ça procure la dopamine dans le cerveau parce qu'on se voit avancer, on se voit progresser. Du coup, la récompense est là. Et du coup, ça crée un peu un cercle vertueux au fur et à mesure. Et plus on va apprendre des choses, plus on va se rendre compte, chose un peu terrible, qu'on ne comprend rien et qu'on ne sait rien au final. Et ça, c'est assez insupportable dans un domaine, je pense que tu l'as déjà vécu toi aussi.
Ouais.
C'est que plus on apprend de choses, moins on a l'impression de connaître des choses. Et ça qui est assez, il y a un vrai problème à résoudre, c'est quand je m'arrête d'apprendre, en fait. Par rapport à un domaine précis, je veux dire. Quand j'ai assez de connaissances à mon niveau pour savoir que je peux passer ailleurs. Et c'est compliqué, je veux trouver un peu la juste balance entre le trop de connaissances, en fait, le gavage de connaissances, qui sera quasiment inutile en quelque sorte. J'ai l'habitude de dire, moi, en général, qu'on peut maîtriser un sujet à 95%, mais à 100%, ça demande un temps juste de malade mental, en fait. Et c'est pas rentable, au final.
Ouais.
T'en penses quoi, toi ?
Ouais, je suis complètement d'accord. Moi, je suis toujours dans l'idée du fait que le système est là pour supporter toutes ses envies. Donc, si je veux passer 2 mois à apprendre à fond les neurosciences, que je suis absolument enfin, loin d'être un expert du sujet, j'ai à peine 30% du sujet, puis ensuite 2 mois à apprendre la permaculture, le système est là pour le supporter, et le fait d'ajouter des choses sur la permaculture va créer des connexions avec les neurosciences et va déjà me faire réactiver toutes mes connaissances en neurosciences et créer des liens, de nouvelles idées, etc. etc. Donc en fait, même si ensuite j'y reviens pendant 2 mois, mais si je reviens ensuite aux neurosciences pendant 2 mois, le système sera aussi là parce qu'il y aura, enfin, je recommencerai pas à zéro, puisque j'aurais rien perdu par rapport à tout ce que j'ai déjà appris au précédent, puisque j'aurais toutes les notes dans mon système. Donc, je dirais qu'il n'y a pas vraiment un temps optimal pendant lequel il faut s'immerger dans un sujet. Après, oui, effectivement, si on veut devenir expert, tout dépend les ambitions qu'on a, quoi. Mais oui, je dirais quand même que le mieux, c'est clairement de suivre sa curiosité et son envie si on a un système pour le supporter, quoi.
C'est ça que j'ai tendance à dire en général qu'on peut devenir facilement très bon dans un sujet en 6 mois, par exemple. Mais pour être un expert, il faut par exemple 10 ans, toi.
Ouais.
Or, souvent, ce qui fait la différence, c'est 5%.
C'est
Les
l'expérience aussi.
5% sont tellement. L'expérience aussi, bien évidemment. Mais c'est tellement dur à acquérir, des fois, ce n'est pas spécialement rentable. Et chose intéressante avec ta méthode et ton système, d'ailleurs, on parlera un peu de ta formation après, je pense, notamment par rapport au module gratuit que tu proposes. Parce que tu as 3 modules gratuits, je crois, que tu proposes,
Ouais.
sauf erreur de ma part,
Ça, j'ai
si
une
c'est
heure
encore le
trente, oui.
cas. 1h30, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est intéressant avec ta méthode et ton système, c'est que en fait, tu vas réellement trouver des connaissances et compiler des connaissances qui vont dans le sens de ta personnalité. Je m'explique. Tu parles de neurosciences, tu parles de permaculture, deux sujets qui te passionnent, je pense.
Ouais.
Et du coup, tu as fait des liens entre les deux. Tu as fait des connexions entre les deux. Du coup, c'est réellement Elliot Meunier, ce sont ses connaissances à toi, en fait, ce sont les tiennes. Tu les as intégrées, tu peux ajouter un peu de danse par-dessus, etc. Et tu vas faire des ponts entre tous ces domaines-là. Et ça va créer en fait une connaissance qui t'est propre, avec des métaphores qui te sont propres, des images qui te sont propres et des liens qui te sont propres à toi. Et non pas qui sont rabâchés à l'autre personne. Et ça, je trouve ça très puissant en fait.
Oui, c'est clair.
Donc voilà,
Tu
tout
cultives
simplement.
une, tu, non, mais tu cultives une qualité de pensée, c'est dingue dans ce genre de système, quoi. Et parce que, enfin, si par exemple on se met dans l'optique qu'on veut créer un contenu, la création de contenu avant, c'est vraiment je sélectionne un sujet sur lequel j'ai pas beaucoup de connaissances. Du coup, je fais des recherches dessus ensuite. Puis je me rends compte une fois que j'ai fait mes recherches que le sujet que j'avais sélectionné, l'angle est pas bon, etc. Et puis ensuite, du coup, je vais essayer de réécrire ce que j'ai lu dans mes recherches il y a 2 semaines, quoi, dans mes propres mots, quoi. Du coup, c'est un processus qui est contraignant, fastidieux, et on doit toujours recommencer à zéro à chaque fois qu'on recommence un nouveau sujet. Alors que quand tu utilises ce genre de système, c'est beaucoup plus juste. Tu prends des notes au quotidien sur les contenus qui t'intéressent, tu vois un peu les clusters de notes qui émergent à certains endroits de ton système. Tu vois, par exemple, tu as beaucoup de notes sur la permaculture, bah pourquoi pas faire une vidéo sur la permaculture finalement? Ensuite, juste ton travail, c'est un travail de cette note-là, j'en veux pas, cette note-là, je la mets là. Enfin, c'est un travail d'assemblage, de Lego en fait. Et une fois que tu as fait ce travail de Lego, bah, tu as un contenu qui est réellement original, que tu as apprécié faire. Et effectivement, il n'y aura pas que des briques vertes qui parlent de permaculture, tu as aussi une brique bleue qui va parler de neurosciences à l'intérieur du truc pour donner une image. Et ce truc-là, du coup, me sera complètement unique, quoi, en effet.
Et ça, pour un cadre ou un dirigeant qui fait une intervention, qui fait un seminaire ou autre, c'est très puissant. Déjà parce que ça prend moins de temps, comme tu l'as dit, parce que tout est déjà fait en amont. Tu n'es pas le soir même en train de bâcher sur ton PowerPoint comme un COA, une façon de parler jusqu'à minuit, du coup tu es décalqué, du coup tu es mauvais. Non, là, ça émerge en fait de tes notes. Et effectivement, en fait, en faisant le travail en amont, en cherchant les exemples en amont, tout le travail est pré-mâché. Et ça, c'est juste génial en fait. T'as qu'à prendre, assembler dans le bon ordre, faire un petit plan, tu mets tes briques et c'est plié, ton
Ouais, c'est
travail est
ça.
fait. Et en plus, vu que tu te l'es approprié précédemment avec tes propres exemples, en fait, tu le retiens beaucoup plus facilement également.
Ouais, et
Donc en fait,
c'est
je trouve qu'il y a tous les avantages en fait.
complètement. Bah, en fait, je dirais qu'il n'y a pas tous les avantages, il faut nuancer.
Il y a beaucoup d'avantages.
Non, mais parce que dans un sens, c'est un peu comme la mise en place en cuisine. C'est concrètement, les gens normaux, enfin, quand ils doivent créer un contenu, ils vont au supermarché, ils prennent leurs tomates, leurs machins, leurs trucs, ils les amènent chez eux, ils les sélectionnent, ils les coupent, et ils les mettent dans leur salade. Donc la friction, elle est énorme au moment de faire la salade. Et nous, ce qu'on fait avec notre système, c'est qu'au quotidien, on sélectionne les meilleurs contenus, et comme on les déconstruit, on les intègre, on les comprend, on va déjà les découper et les mettre dans des petits plats. Du coup, au moment de faire notre salade, au moment de créer notre contenu, on va pouvoir prendre tous ces ingrédients et juste les mettre dans notre salade. Ça va juste être ça, la création. Et ce qui est encore mieux, c'est que du coup, les ingrédients déjà découpés, on peut les réutiliser des centaines de fois à l'infini, quoi. C'est comme une tomate qui se régénère toute seule, quoi. Enfin, voilà, c'est un
En
peu
fait, comme
le...
tu as dit, Tolkaston, c'est un buffet à volonté où tu composes ta salade personnelle.
Mais exactement.
C'est ça, avec tes goûts, tes envies, ton histoire par rapport à tel ou tel légume ou fruit.
Ouais.
C'est une belle métaphore, je trouve, effectivement. Effectivement. Et je pense, effectivement, en tant que cadre et manager, on a vraiment à gagner par rapport à ça. Est-ce que tu as prévu, toi, de faire une version spéciale, justement, entreprise, tu as dit oui, par rapport au PME, mais spécialement destinée aux
Ok, ouais.
dirigeants, aux personnes qui
Alors,
managent.
complètement. C'est-à-dire qu'actuellement, en fait, dans la méthode, il y a beaucoup de friction qui n'est pas forcément rentable pour toutes les personnes. C'est-à-dire que la friction qu'on va avoir quand on va lire un article, par exemple, de prendre la note sur cet article et ensuite la déconstruire, lui donner sa propre note, enfin donner à chaque concept sa propre note, etc., ça demande quand même une grosse friction. Et dans un quotidien occupé, c'est, enfin, le temps, est, enfin, c'est quand même un temps que tu as en moins quoi, dans ta journée. Tandis que pour un créateur de contenu, c'est largement rentable parce que la note, tu vas la réutiliser 500 fois dans tes contenus, etc. Du coup, pour un cadre, en fait, le vrai enjeu, c'est plutôt de capturer les informations importantes dans le quotidien, d'avoir un système pour les organiser de manière fiable, sans avoir de trucs et qui soit surtout unifié entre toutes ces applications, entre son application de tâches, son application de capture, son sort d'entrepôt en fait à connaissance et ses fichiers, pour que ce soit un système central où il n'y ait pas besoin de se demander où est-ce que j'ai mis tel truc. Du coup, pouvoir capturer et organiser cette information pour que, par exemple, si on prévoit une sorte de s'il y a une réorganisation d'une branche dans l'entreprise, à ce moment-là, tous les trucs qu'on lit au quotidien sur la réorganisation, sur comment gérer l'accompagnement au changement et tous ces trucs-là, on va pouvoir les capturer dans un dossier propre à ce projet. Et ensuite, au moment de faire le projet, et bien en fait, on aura déjà toutes les connaissances qui auront déjà été amassées à cet endroit-là. Du coup, c'est un truc où il y a 100 fois moins de friction que le système actuel, qui est moins puissant évidemment parce qu'on ne va pas jusqu'au fait de déconstruire, etc. Mais qui, en fait, pour la plupart des entrepreneurs ou les dirigeants qui sont occupés et qui n'ont pas forcément le temps ou de retour sur investissement financier, je veux dire, de ce système, à ce moment-là, ça peut être déjà plus léger d'avoir déjà un sorte d'entrepôt à idées, un système de gestion des connaissances simplifié. Et du coup, oui, je prévois de faire ça, et ça arrivera probablement d'ici 7 ans.
D'accord, super. Et c'est vrai que c'est vachement pertinent pour un cadre typiquement qui, pour la première fois de sa carrière, a affaire à un entretien de recadrage, par exemple. Il s'est beaucoup formé dessus, mais il ne l'a jamais appliqué. Du coup, en tapant sur le système que tu vas développer, je pense que tu vas aider les gens à développer, plutôt, pardon, il tape en tout cas le recadrage, il tombe sur sa note, il voit tous les liens qui sont faits, typiquement par rapport à la gestion des émotions, par rapport à la courbe du deuil, j'en sais rien, plusieurs choses. Du coup, il peut faire un petit package par rapport à tout ça, c'est réimprégner du sujet, et après être pareil pour faire l'entretien de façon efficace et efficiente le jour J.
Ouais, exactement.
C'est bien ça.
Ouais. Okay. Et puis surtout, du coup, prendre l'habitude de prendre des notes, avoir du coup toutes les notes de tout ce que tu as fait durant les 10 dernières années dans ton système. Et du coup, dès que tu as besoin d'un truc, tu l'as déjà dans ton système, tu as déjà eu un entretien de recadrage, tu as noté un petit retour d'expérience rapidement sur comment ça s'est passé, du coup tu peux aller regarder ce que tu as fait, etc. Et ouais, du coup, t'as vraiment, enfin, c'est un second cerveau qui se souvient de tout ce que tu as déjà fait dans ta vie aussi, c'est ça qui est avantageux.
Et du coup, se greffe à ça la pratique délibérée dont on a déjà parlé, parce que typiquement sur ton feedback, auto-feedback, on va dire, tu dis j'ai pas été assez bon à l'accueil de la personne, peu importe l'exemple, et là aujourd'hui, sur le prochain, je vais 100% focaliser sur l'accueil.
Ouais.
Plus le reste, bien évidemment, en tout cas, je vais mettre un gros focus, un gros point d'orgue à faire un super accueil cette fois-ci.
Ouais, pour la pratique délibérée.
Ce qui ne marche pas, et on va essayer d'intégrer, de comprendre à l'instant T, de faire une méta-analyse de soi-même, de prendre du recul par rapport à l'action que l'on fait, pour comprendre précisément ce qui va, ce qui ne va pas, en analysant à la fois le salarié, si nous, on est à l'aise ou pas, et les conséquences de ça sur le reste de l'entretien.
Ouais, absolument.
Et du coup, on revient sur la danse, en fait.
Oui.
La boucle est bouclée. Parce que du coup, on est encore sur le décortiquer des mouvements de A à Z pour travailler juste le mouvement isolé, pour après l'intégrer dans un mouvement plus complet.
Ouais, complètement. Et puis même, en fait, si juste si on prend l'exemple de quelqu'un qui appelle des gens, qui fait de la prospection au téléphone pour vendre des trucs, ben, ce genre de système, ça crée un lien, ça met du sens entre ce qu'il va apprendre dans l'influence et manipulation, tous les biais psychologiques, également tous les retours d'expérience qu'il peut avoir, les speeches de vente qu'il peut voir, les méthodes, les nouveaux outils, tous ces trucs-là, ça vient s'articuler dans un ensemble cohérent et lui permettre en fait, d'être meilleur dans son travail quoi, et de faire de la pratique délibérée, etc., etc.
Oui, parce que souvent, on a tendance à se dire, en fait, tiens, j'aurais dû dire ça, tiens, j'aurais dû faire ça. Oui. Sauf que là, en prenant un peu d'analyse, en prenant le temps de prendre en note ce que j'aurais dû dire, ce que j'aurais dû faire, en lisant la note avant l'événement qui va se passer, on peut se dire, effectivement, j'ai été faillible ici. Par contre, là, cette fois-ci, ça passe pas, je le tente, je le fais. Et on voit si ça marche ou non. C'est pas sûr que ça va marcher. Mais au moins, on aura essayé, on ne l'aura pas oublié cette fois-ci. Parce que souvent, en fait, on répète les mêmes erreurs. Ça, on ne le dit pas assez souvent. On répète constamment les mêmes erreurs au quotidien. On fait une erreur, on la fera pendant 10 ans si jamais on ne fait pas la pratique délibérée sur l'erreur pour la corriger de façon efficace et consciente. Et en prenant note, en faisant des feedbacks sur soi-même, en prenant également des notes sur un journal quotidien, chose que je fais et que tu dois faire également, je pense,
ouais,
par rapport à son travail, par rapport à ses ressentis, ses émotions, on peut voir des patterns, on peut voir ce qui ressort. En comprenant ces patterns-là, on peut travailler dessus pour soit les amplifier s'ils sont bénéfiques, soit pour les minimiser s'ils sont négatifs.
Absolument, ouais, c'est
une méta-analyse de soi-même. C'est comme un jeu vidéo en fait.
Il faut créer en fait une sorte de boucle de feedback vertueuse qui t'amène, ouais, toujours plus loin, et c'est ce que aide à faire ce genre de système.
C'est un peu la roue PDCA du coup en qualité avec, ouais, plein de check action quoi.
Exactement.
On planifie l'action qu'on va faire, on va la faire, après on va checker si c'est bien passé, puis on va réagir en fonction de l'output, donc du résultat qui est tombé.
Complètement.
Et du coup, c'est super intéressant. Effectivement, on a tendance à cloisonner les outils à des domaines en particulier, pourtant ils s'appliquent à tous les domaines en général. La roue PDCA est super pratique, à la fois en communication, en qualité, en marketing, dans tout. Mais on a souvent tendance à cloisonner les choses. Et justement, décloisonner comme un outil avec Zettelkasten ou encore comme ta formation permet justement de ne plus avoir ces cloisons-là, de les faire péter et de lier les choses entre elles. Et c'est là réellement, je pense, qu'on peut progresser très rapidement en termes de connaissances et d'apprentissage.
Absolument, je suis d'accord avec toi.
Donc voilà, bah, j'ai fait le tour des questions que j'avais à te poser, Elliot.
Très bien.
As-tu des choses à rajouter de ton côté ou pas ?
Écoute, prendre des notes, ça prend du temps. C'est une habitude quotidienne à construire.
Ça prend du temps, par contre.
Ouais. Mais alors, ça prend du temps. Faut pas le voir non plus comme un bloc de temps qu'on va prendre dans une semaine. C'est plus chaque action, par exemple la lecture d'un livre, ceci, cela, c'est rallonger un petit peu parce qu'on va prendre des notes. Donc prendre des notes, ça prend du temps. Mais ne pas en prendre, c'est perdre son temps. Voilà, c'est ma conclusion.
C'est beau, c'est très beau. Et veux-tu parler pour terminer de ta formation et notamment de la partie gratuite que je pourrais mettre en lien en description du podcast et envoyer par email?
Absolument. Du coup, ma formation, c'est donc la méthode Atomic Thinking qui vous donne en fait tous les processus que vous avez besoin de connaître pour mettre en place un système de gestion des connaissances, de la sélection de l'information à la capture, comment est-ce qu'on va capturer l'information, l'organiser, comment est-ce qu'on va déconstruire tous ces concepts et faire émerger de nouvelles idées et créer à partir de ça, aussi s'organiser, il y avait une partie sur la productivité. Et donc effectivement, il y a une introduction gratuite qui est proposée, qui dure une heure et demie, pour expliquer vraiment c'est quoi la gestion des connaissances, comment marche le système, etc. C'est complètement gratuit peut-être que tu pourras mettre le lien dans la description ou quelque chose comme ça.
Je le mettrai, ouais.
Okay.
Et du coup, moi qui m'adresse au cadre manager, si tu me conseilles, en tout cas, toi, conseilles-tu aux personnes qui me suivent d'attendre la version, on va dire, spécialement dédiée au cadre manager? Alors, la version globale est intéressante pour eux également.
Je pense que la version globale est très intéressante, d'autant que dans mon planning de sortie de version, là, le prix risque d'augmenter. Donc, si on l'achète maintenant, vous aurez accès à tout l'ensemble de la formation quand elle aura augmenté de prix. Enfin, voilà. Dans l'absolu, la version qui sortira bientôt est suffisante, mais autant tout avoir le contenu pour un prix moins cher, quoi. Voilà.
Clairement. Ça marche. Les liens seront mis du coup en description. Et ta formation est ouverte toute l'année ou est-ce que tu as des lancements en particulier
Toute l'année et il n'y a pas de promo à durée limitée sur l'année.
D'accord, ok, ça marche. Et bah super, tout ça sera présent en description. Merci pour tout, Elliot.
Merci à toi.
et au plaisir d'échanger à nouveau à l'occasion.
Avec plaisir. Bon après-midi.
Salut.
Salut.
Et voilà, nous arrivons à la fin de cette interview et de ce nouvel épisode de cette série de podcasts. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous aurez pris du plaisir à l'écouter. Et si jamais c'est le cas, passez le bonjour à Elliot directement de ma part, via son site, via sa chaîne YouTube ou autre. Dans tous les cas, tous les liens sont présents en description de ce podcast. De mon côté, je vous dis à la semaine prochaine maintenant pour un nouvel épisode avec un ami à moi, avec une personne qui passe pour la deuxième fois sur ce podcast, à savoir Monsieur Pierre Dufraisse. À la semaine prochaine.